Bonjour, bonjour, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on vous raconte l'aventure incroyable d'un Français parti en 1653 de Malicorne-sur-Sarthe pour arriver à Montréal. Son descendant entreprend le même voyage aujourd'hui, il sera avec nous. Et puis avant le week-end, on lit un petit peu de poésie avec les 100 poèmes qu'il faut absolument connaître, un livre qui vient tout juste de sortir.
Et je suis sûr que vous avez déjà choisi votre poème, Frédéric.
Exactement, mais avant tout cela, c'est l'actu de ce vendredi 18 avril. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tournier.
On va prendre la route ou le train ce week-end de Pâques.
Pour faire le tour de France des incivilités au volant et s'apercevoir que les trains ont battu des records de retard et d'annulation l'an passé.
Des grandes surfaces pourraient être bloquées ce week-end.
À cause d'une grève à l'appel de la CGT qui dénonce les suppressions de postes dans les super et les hypermarchés.
Et si des vocations naissaient en ces temps de reconstruction du patrimoine?
On cherche des couvreurs, des charpentiers, des maçons et des tailleurs de pierre.
Pas de chocolat pour Pâques?
Si, bien sûr, d'autant que nous sommes 95% à acheter du chocolat à cette période, des œufs, des lapins ou des poissons.
Alors bienvenue à tous dans Une Heure en France, à l'approche de ce week-end rallongé ou croisement de vacances pour les trois zones.
Une heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farou sur France Bleu.
On a eu des nouvelles des deux enfants blessés par la chute d'un arbre dans une cour d'école à Bessin, dans le Tarn-et-Garonne.
L'un a été blessé à l'abdomen, l'autre à la jambe. On a appris ce matin que le petit garçon touché à la jambe a dû être amputé. L'école Jules Ferry, qui reçoit des élèves de maternelle et de CP, a été fermée ce vendredi. Une cellule médico-psychologique est en place.
Sur la route ce week-end de Pâques est le week-end le plus difficile des vacances de printemps.
C'est déjà rouge en Île-de-France à cette heure-là et orange ailleurs. Orange aussi demain, samedi sur tout le territoire. Et pour le retour lundi, ce sera orange et même rouge sur le Grand Ouest.
Et on ne peut que trop vous recommander d'être prudent au moment où l'on découvre le baromètre de la conduite responsable.
C'est bien connu, ce sont les autres qui conduisent mal tandis qu'on s'estime bon conducteur, vous confirmez.
Évidemment.
Mais regardons quand même les variations des conduites d'une région à l'autre, Pierre Emparent.
Oui, les Parisiens et les Marseillais sont indétrônables. Ils restent les rois de l'insulte au volant avec une légère avance pour Paris cette année. Fenêtres baissées, les noms d'oiseaux fusent. Les plus sages d'entre nous peuvent soudain avoir des envies de meurtre. 7 Français sur 10 l'avouent. Ils hurlent contre les autos, les motos, les scooters. Un tiers double par la droite sur l'autoroute. Et les coups de klaxon ont augmenté de 6 points en un an. Attention, méfiez-vous particulièrement des Marseillais mais aussi des Bretons. Ce ne sont pas que des grandes gueules. Ils n'hésitent pas à descendre de voiture pour s'expliquer. Mais heureusement, on n'est pas tous égaux devant l'injure. Certains savent garder leur calme, ce qui est plutôt une bonne chose puisque plus on s'énerve, plus on augmente le risque d'accident.
Merci du conseil, Pierre Emparent. Les plus relax au volant seraient les Strasbourgeois et les Nantais.
Bon, cela dit, on n'est pas obligé de s'énerver au volant. On peut aussi prendre le train.
Ah! Sauf que là aussi, on a un baromètre. Ah. Plus d'un TGV sur 6 n'arrive pas à l'heure, selon l'autorité de la qualité de service dans les transports, citée par le Figaro. Les taux d'annulation touchant les liaisons longue distance ont atteint des niveaux inédits l'an passé. Bref, les chiffres sont mauvais. La situation se dégrade sur toute la ligne, Maureen Suignard.
Il y a d'abord tous ces problèmes ponctuels. Vous avez sûrement déjà eu du retard à cause de fortes pluies ou encore de la neige. Souvenez-vous aussi de cette panne géante en gare Montparnasse, une rupture d'alimentation électrique en plein week-end de chasse et croisée du mois de juillet et des milliers de voyageurs en galère. Tout comme au printemps dernier avec la grève des cheminots et le taux d'annulation qui s'envole pour les TGV, plus 6%. Il y a aussi des raisons structurelles. Les infrastructures sont vieillissantes, les rails, les rames, c'est flagrant pour les TER. On passe de 11% de retard à plus de 17% en 5 ans. Et si un TER tombe en panne, cela ralentit aussi les TGV qui circulent sur le réseau classique. Enfin, certaines gares ne sont aussi plus adaptées au nombre de voyageurs. Celles de Paris et de Lyon sont souvent bondées, ce qui contribue à noircir le tableau.
Maurice Suignard, bon, sur ce, bonne route ou bon voyage quand même. Soyez prudents en tout cas.
Et si vous avez prévu de faire vos courses de Pâques au tout dernier moment, demain, vous risquez peut-être de trouver des super ou des hypermarchés perturbés.
La CGT appelle à la mobilisation aujourd'hui dans les entrepôts, demain dans les magasins, pour dénoncer ce qu'elle appelle une véritable hémorragie sociale. 30 000 postes supprimés depuis 2014 et des salaires qui n'évoluent pas, Jules Brelaz.
Cela fait presque un demi-siècle que Marinette est caissière, passée par toutes les grandes enseignes au gré des fermetures et des plans sociaux à répétition. Après 42 ans de métier, elle ne touche que le SMIC avec une petite prime d'ancienneté de 250 euros.
C'est ce qui améliore un petit peu mon quotidien, mais autrement c'est la misère sociale hein, et ça devient terrible. Ça m'effraie. Parce qu'on ne peut pas trouver quelques sous pour la misère sociale, mais on vient de trouver presque 1 milliard en 2 jours pour reconstruire une église, certes Notre-Dame, mais après on n'arrête pas de nous dire « Ah bon, on ne peut pas augmenter les salaires parce que ce n'est pas possible, il n'y a pas d'argent ». On se pose quand même des questions, quoi.
Aujourd'hui, Marinette travaille dans une supérette de Poitiers appartenant à un grand groupe. La salariée syndiquée CGT est toujours caissière, mais pas seulement.
J'ai mon contrat, je suis hôtesse de caisse. Bon, mais je gère le rayon fleurs. L'après-midi, je vais faire cuire le pain. Mais tout ça, ce n'est pas sur ma feuille de poste. Il faut être partout pour le même prix. C'est des conditions de travail quand même assez difficiles, avec des clients de plus en plus exigeants, voire agressifs. C'est très dur.
À 62 ans, Marinette compte les jours avant de partir à la retraite dans 4 mois.
Je n'en peux plus.
Jules Brélaz au supermarché avec France Bleu Poitou.
Une autre grève est en cours et elle pourrait être contagieuse, celle des hôpitaux de Paris.
Après les urgences depuis dimanche, les agents de tous les autres services sont invités à faire grève depuis hier soir à l'appel de 8 syndicats. L'APHP, les hôpitaux de Paris, c'est 39 sites et 100 000 salariés, Solène Lehen.
On a sauvé Notre-Dame, il faut maintenant sauver l'Hôtel Dieu, s'écrient les syndicats de la PHP. L'Hôtel Dieu, hôpital emblématique à quelques pas seulement de la cathédrale parisienne, hôpital dont plusieurs services ont déjà été fermés ou sont menacés de fermeture. Pour filer la métaphore, les syndicats estiment que c'est toute la maison APHP qui brûle, les 39 hôpitaux et pas seulement les services des urgences. Il faut trouver des moyens de se protéger contre certains patients violents, améliorer les conditions de travail, embaucher, augmenter les salaires. Les revendications sont nombreuses, avec en toile de fond la réorganisation de la PHP prochainement, le regroupement administratif des hôpitaux en grands pôles, une réforme qui fait craindre aux syndicats des suppressions de postes, près de 800 dès cette année selon eux. La direction de la PHP le concède, il y aura bien des suppressions de postes, mais promet qu'elles concerneront essentiellement des emplois administratifs, notamment au siège du groupe.
Solène Lehen et la grève dans les hôpitaux de Paris.
54% des Français souhaitent que les gilets jaunes fassent une trêve pour Pâques et ne manifestent pas demain samedi.
Mais un sondage ne décide pas d'une journée d'action. À Paris, les manifestations seront interdites aux abords de Notre-Dame après l'incendie, comme les Champs-Élysées et les abords du Palais de l'Élysée. Plus de 60 000 policiers et gendarmes seront présents dans toute la France. Ça correspond à une mobilisation qui présente une menace sérieuse. Christophe Castaner estime que les casseurs seront là à Toulouse, Montpellier, Bordeaux ou Paris.
13h08 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera du chocolat. Allez savoir pourquoi en ce week-end pascal. Et puis c'est aussi le projet de reconstruction de Notre-Dame de Paris avec l'opération Chantier de France, lancée hier par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Un appel d'air, ce sont ces mots, sur les métiers nécessaires à la reconstruction, mais aussi pour la rénovation du patrimoine partout dans le pays.
On cherche des couvreurs, des charpentiers et des tailleurs de pierre. Louis Cellier fait partie des compagnons du devoir à Brest. Il explique comment il cherche à créer des vocations chez les jeunes.
La chose la plus facile à faire, c'est de faire le lien avec un professionnel. Quand on peut parler avec quelqu'un qui est passionné de son métier, qui peut raconter des expériences, montrer des photos, là on est bon. Après, il y a une chose à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que ces métiers-là garantissent le plein emploi. Le plein emploi, la possibilité d'évoluer dans des carrières, pourquoi pas, à terme pour certains, devenir entrepreneur ou en tout cas accéder à des postes à responsabilité. Il y a un vrai ascenseur social dans les métiers manuels qu'on retrouve pas forcément dans toutes les filières post-bac.
Est-ce que vous pensez qu'avec ce qui s'est passé à Notre-Dame, il peut y avoir un regain de vocation ?
Ah ben, je l'ai vécu ce matin. Un jeune qui venait prendre des renseignements et qui a eu des étoiles dans les yeux parce qu'il a vu un reportage à la télé hier qui lui disait il y aura besoin de couvreurs avec les compagnons pour former des apprentis et il est venu nous voir.
Sixtine Lys à France Bleu Brésisel a joint le compagnon du devoir.
On évalue le besoin à 550 emplois à l'échelle nationale actuellement, 200 couvreurs, 150 charpentiers, 100 maçons et 100 tailleurs de pierre.
Tout le monde ne savait pas que des ruches étaient installées à Notre-Dame de Paris et les quelques 200 000 abeilles de Notre-Dame sont rescapées des flammes.
Les 3 ruches de la cathédrale ont survécu à l'incendie. Nicolas Géant est l'apiculteur chargé des abeilles de Notre-Dame. Il a appris la nouvelle hier et il ne cache pas son soulagement.
Je pensais pas qu'elle résisterait. J'ai eu une première joie en voyant les images satellites, parce que j'ai vu que les trois ruches n'avaient pas brûlé. Les abeilles sont sur la sacristie, entre la cathédrale et la Seine, juste en dessous de la rosace, de l'énorme rosace. Ouais, elles étaient 30 mètres plus bas. C'est une grande chance, parce que oui, elles auraient pu disparaître. Il suffit que des poutres incandescentes tombent sur les ruches, et oui, là, ça aurait mis le feu aux ruches. Et j'ai eu l'information comme quoi les abeilles rentraient et sortaient des ruches, donc elles seraient toujours en vie. En arrivant sur place, je veux ouvrir les ruches et voir exactement ce qu'il y a dedans, la population, la cire, le couvain, les abeilles, je veux tout voir, la reine surtout. Normalement, je devrais pouvoir y aller la semaine prochaine.
Et en cas d'incendie et dès les premiers signes de fumée, les abeilles se gorgent de miel et protègent leur reine. Et cette espèce, l'abeille européenne, n'abandonne pas sa ruche.
Elle est bien, l'abeille européenne. Hein. Plusieurs bâtiments ou monuments accueillent des ruches sur leur toit, à commencer par le miel de Radio France sur le toit de la maison de la radio qui est très bon.
95% des Français ont acheté ou vont acheter du chocolat pour Pâques. Et dans 8 cas sur 10, ce sera dans l'ordre des œufs, des lapins, des poules et puis des poissons.
Vous allez faire la chasse aux œufs, Frédéric?
Non, mais je pense que je vais en recevoir.
Alors quand on pousse la porte d'une chocolaterie comme chez Darico à Bordeaux, on se rend compte qu'il y en a pour tous les goûts et tous les âges aussi. Écoutez bien Nina Valette.
Un peu perdue au milieu de ces centaines de chocolats, Julie, une bordelaise de 40 ans, remplit plusieurs sachets.
Des œufs feuilletés 100 grammes aussi, mais dans une autre... Ouais. Je vous en fais goûter un.
Ah merci madame.
Ils sont très bons. Peut-être en prendre 150 grammes du coup, maintenant que j'ai goûté.
Finalement, elle repart avec 200 grammes et ce n'est pas fini.
C'est un œuf qui est un artifice en fait, un œuf qui est rempli de chocolat, c'est ça, et de pralinés. À Pâques, chacun a ça... Au petit déjeuner, c'est la tradition. Et ils ne vont pas oublier, hein, parce que sinon on nous le rappelle.
Et contrairement aux apparences, non, ces chocolats ne sont pas vraiment pour des enfants.
Effectivement, les grands-mères et les parents aiment bien avoir leur œuf aussi.
Et ici, les gérants le confirment, beaucoup d'adultes viennent pour eux. D'ailleurs, Laurence Garrigue, la responsable de la boutique, a fait ses propres réserves pour son grand garçon.
Malgré ses 28 ans et ses copains, ils nous attendent pour la chasse aux œufs tous les ans. C'est-à-dire que je ferme la boutique le dimanche à 13h. On va sur le bassin et le lundi matin, on se lève tous les deux. On va encore cacher les œufs pour notre fils chocolatier et tous ses copains.
L'âge n'est donc plus une raison pour vous priver. Et si vous êtes plus salé que sucré, par exemple, eh bien, sachez qu'il existe aussi du chocolat au sel, puisqu'on vous dit que vous n'avez plus de raison de vous priver.
Nina Valette à Bordeaux. Vous avez noté, Frédéric, il n'y a pas d'âge
non.
pour la chasse aux œufs.
C'est encore possible, effectivement.
Des dégustations photos sont en cours sur francebleu.fr dans toutes les régions de France.
Après les Coupes d'Europe, sans club français, la Ligue 1 de football repart ce soir.
Vous êtes obligé de préciser sans club
là,
français.
Oui, désolé, c'est ouais. comme ça.
Avec deux matchs, Dijon-Rennes à 19h et Lyon-Angers à 20h45.
On va vivre tout à l'heure une aventure incroyable entre Malicorne-sur-Sarthe et Montréal sur les traces d'un habitant de la commune qui est parti au XVIIe siècle pour aider la construction de Montréal qui s'appelait encore Ville-Marie.
Tout à l'heure, ce sera donc « Je reviendrai à Montréal dans une heure en France » et Robert Charlebois d'ailleurs ne sera pas loin.
Mais, oui,
mais... il n'est pas le seul à avoir chanté la métropole québécoise. Jacques Normand l'a devancé en 1949 avec les « Nuits de Montréal » comparées aux « Nuits parisiennes ».
On a de tout temps chanté les nuits de Paris, la place Pigalle, Montmartre, les Halles. Dans le monde entier, on sait que là-haut, c'est beau. Oui, mais ici, on a aussi des filles jolies, des cabarets, des boîtes de nuit, pour y chanter dans la gaieté des airs légers. J'aime les nuits de Montréal, pour moi ça vaut la place Pigalle. Je ris, je chante, la vie m'enchante, il y a partout des refrains d'amour. Je chante encore, je chante toujours, et quand je vois naître le jour, aux petites heures vers ma demeure, je vais heureux à Montréal, c'est merveilleux.
On reste dans la modernité chaque jour avec vous, Denis. Je reviendrai à Montréal, donc tout à l'heure dans une heure en France, depuis Malicorne-sur-Sarthe, avec notamment un descendant du pionnier, Paul Desautels.
Ce sera avant de se rappeler des poèmes de notre enfance appris à l'école. Vous avez choisi quoi, vous? Baudelaire,
ah,
La Fontaine?
Je laisse la surprise, j'ai eu du mal à me décider.
Voilà la météo du jour.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu en replay, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.